Les Américains vont être réceptifs à des approches, mais on n'aura pas deux occasions. Donc, il faut vraiment saisir sa chance quand on l'a, quitte à attendre et à être patient et à bien préparer le moment venu, plutôt que d'essayer d'aller trop vite.
Bienvenue sur Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elle soit organique ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ichbia.co. Ça s'écrit ichbiah.co. Alors, quand on pense à son expansion aux États-Unis, le réflexe est souvent de monter une filiale, voire d'embaucher un VIE. Mais parfois, ça peut avoir du sens en amont de faire une étude de marché qui est difficile à faire à distance, voire de sous-traiter sa force de vente dans un premier temps pour tester le marché et limiter les investissements. Il existe des prestataires qui offrent ce genre de service aux États-Unis, dont Wino Consulting, dont Bruno Tateossian est le fondateur et le PDG, et c'est donc mon invité aujourd'hui. Bruno, bonjour.
Bonjour Romain.
Bruno, je suis ravi. Comme tu le sais, on a eu du mal à se caler, on a eu des problèmes techniques, mais finalement, nous sommes ensemble.
On y arrive.
Donc Bruno, merci de prendre le temps. Est-ce que, avant que tu nous parles de ton activité de Wino en plus de détails, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nous présenter ton parcours, notamment comment tu es arrivé aux USA?
Oui, avec plaisir. Alors, en fait, moi, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis au début des années 90. Je suis rentré ensuite en France pour faire un master et mon service militaire qui, en fait, est devenu une coopération pour la région Île-de-France à Montréal, au Canada. Donc, j'ai passé ces 16 mois de coopération plus une année de contrat à Montréal pour faire un travail de développement économique pour la région Île-de-France, ce qui a débouché ensuite sur un poste au sein d'Invest in France Agency, qui était à l'époque l'agence nationale de la France pour l'attractivité des investissements donc américains. J'étais basé à Houston déjà et ce contrat a duré 5 ans. Au terme de ce contrat en 2002, et étant titulaire de la carte verte, j'ai décidé de rester aux États-Unis et de fonder ce qui est donc aujourd'hui Wino Consulting. Donc, on va bientôt fêter notre 19e anniversaire.
Oh, waouh, bravo. Bravo.
Merci.
Belle histoire. Donc, si j'ai bien compris, donc avant, tu aidais les Américains à investir en France, hein, ou la France à recevoir des investissements nord-américains. Et donc, aujourd'hui, avec Wino Consulting, c'est plutôt l'inverse, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites, donc?
Oui, alors Wino Consulting est une SAI classique, hein, une société d'accompagnement à l'international. Donc, nos clients sont essentiellement des PME, des ETI, ou des divisions de grands groupes qui cherchent à se développer sur le marché américain.
Français?
Alors, français, nous avons une clientèle européenne et également asiatique, donc, mais essentiellement français et européen, exactement. Ouais.
D'accord. Alors, comment ça marche? Je décrivais, de ce que je comprends, il me semble qu'il y a deux temps ou deux majeurs dans vos services, corrige-moi si je ne m'abuse. Donc, il y a une partie étude de marché, donc qui est peut-être en amont d'une entrée sur le marché, et aussi, ce qui n'est pas forcément exclusif, dans un deuxième temps, une force de vente externalisée. Enfin, peut-être que tu peux l'expliquer un peu mieux que moi.
Oui, absolument. On a deux cibles aujourd'hui de clients qui sont des sociétés qui n'ont pas d'expérience sur le marché américain, qui pensent que leurs produits ou leurs services seraient compétitifs sur le marché US. Ils ont peut-être quelques demandes, mais ne savent pas trop comment les traiter. Donc, on est effectivement dans des étapes en amont d'évaluation du marché, de formulation de stratégie d'entrée sur le marché US, de tests sur le marché, si les produits le permettent. Donc là, on est plutôt effectivement sur des études de marché classiques, parfois assez exhaustives, ou des études de la concurrence, ou des études de positionnement. Donc on est plutôt sur un travail de recherche, d'être sur le terrain pour aller valider l'intérêt du produit, éventuellement le faire des recommandations sur des adaptations possibles ou quels positionnements peuvent être mis en avant. Donc voilà, tout ça, c'est cette première partie. Et puis ensuite, dans l'opérationnel, de mettre en place les recommandations que nous avons faites ou tout simplement passer à une étape suivante pour les entreprises qui ne souhaitent pas créer de structure sur place, embaucher localement, mais plutôt une étape intermédiaire qui est de travailler par des consultants comme nous sur des missions court terme, c'est-à-dire pour nous jusqu'à 6 mois, voire des contrats à l'année de représentation commerciale. Ces entreprises domicilient un bureau virtuel dans nos locaux et une ou deux ou même parfois 3 personnes de notre équipe deviennent la force commerciale externalisée de ses clients, prospectent le marché, réalisent des ventes et développent le chiffre d'affaires.
D'accord, donc ça a effectivement l'avantage quand on est une société qui n'a pas de présence aux US, qui veut quand même probablement aller piano et sano, de valider la demande du marché, et puis dans un deuxième temps, avant de lancer des embauches à tire-larigot, de commencer à voir si effectivement l'étude est validée par des vraies ventes, entre guillemets, et en payant donc des coûts variables plutôt que des coûts fixes, enfin, partie de coûts fixes dans mon sens, à savoir des commerciaux qui on va quand même être salariés souvent.
Absolument.
Très, très clair. Tu disais, on travaille pour des PME, des ETI, mais aussi des grands groupes. Mmh. Est-ce que tu peux être un petit peu plus précis ou peut-être donner des exemples concrets en termes d'industrie ou de type de produit? Et notamment prenant les deux extrêmes, donc une très petite entreprise, c'est intuitif. Un grand groupe, ça l'est parfois un peu moins.
Oui, tout à fait. Alors, on travaille effectivement parfois pour des toutes petites entreprises. Alors, un exemple que je peux citer, c'est notre plus ancien client aujourd'hui, qui est une petite société dans le domaine du médical qui est basée en Bretagne, qui a développé un fauteuil roulant tout terrain pour donc les personnes handicapées, pour avoir accès aux activités extérieures, notamment sur la plage ou des randonnées. Donc, c'est un client qu'on accompagne depuis 2005. On a accompagné dans la première phase d'obtention de l'enregistrement FDA. Et aujourd'hui, on gère tout l'aspect commercial, donc c'est-à-dire le stock ici aux États-Unis, tout ce qui est développement des ventes et back-office. C'est une toute petite entreprise, hein, ils sont 10. Aujourd'hui, les États-Unis représentent à peu près le quart de leur chiffre d'affaires mondial. Donc voilà, c'est un système qui leur convient très bien. C'est pas une société qui souhaite ou qui a les moyens aujourd'hui d'exploser ou de se développer énormément. Donc, pour que nous puissions continuer à gérer leur vente, ça leur va très bien en fait. Donc ça, c'est un exemple. Alors effectivement, des divisions de grands groupes. Alors on a cette expérience plutôt avec des clients asiatiques, notamment japonais ou coréens. Après, il nous arrive de travailler avec des entreprises assez importantes, notamment française, je peux citer comme exemple le groupe Pasquier pour lequel on a mené une mission l'année dernière, par exemple.
D'accord. Et alors donc, effectivement, c'est l'avantage de ce modèle, hein, et pour être clair, c'est pas pour faire de la pub, c'est plus pour comprendre à qui ça peut s'adresser ce genre de service. Hein. Quand tu parlais justement de cette société qui fait des chaises roulantes tout terrain, en fait, non seulement en amont, ça peut aider pour tâter le marché, mais ce que tu décris, c'est que même à long terme, en fait, on peut se retrouver dans un modèle où tout le monde s'y retrouve. La société et le potentiel de marché ne sont pas assez importants pour avoir quelqu'un à plein temps, une filiale avec tous les coûts que ça entraîne. Et en même temps, il y a une demande qui est suffisante pour justifier d'utiliser vos services. Donc, ça n'est pas que du court terme, ça peut être du plus long terme. Et ça, c'est passionnant.
Absolument.
Alors, il y a quelque chose qu'on dit souvent, et donc je suis curieux d'avoir ton point de vue. On dit souvent que pour vendre aux États-Unis, donc à des acheteurs américains, il faut être américain. Et donc, ton équipe aujourd'hui, elle est, à part toi, elle est purement américaine, elle est hybride. Et comment tu réponds à ce cliché ?
Alors, il y a deux points, effectivement. Alors, moi, je dirais plutôt, pour vendre aux Américains, il faut être près des Américains. C'est-à-dire qu'il faut être sur le territoire américain, il faut être joignable, il faut montrer une présence locale sur le marché US. Quelle que soit l'industrie, quelle que soit la taille d'entreprise que l'on a, cette proximité, les Américains la demandent et c'est ce qui permet d'accélérer le développement sur le marché US. Donc ça, c'est un premier point.
D'accord. Et excuse-moi de t'interrompre, mais quand vous représentez une société, du point de vue de l'acheteur, vous êtes comme la société. Il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là.
Alors effectivement, quand on travaille sur des contrats à long terme, hein, c'est-à-dire plus de 6 mois de représentation, ce travail de prospection, de développement se fait sous le nom de notre client, c'est-à-dire qu'on efface Wino Consulting, on devient la force commerciale locale de nos clients. Donc, ça veut dire que c'est en transparence. On utilise des comptes mail de nos clients, des cartes d'affaires quand on se déplace de nos clients. On se présente vraiment comme étant représentant local de nos clients.
D'accord. Et par rapport à ton point précédent qui était que pour vendre aux Américains, l'une des clés, c'est aussi d'être physiquement sur le territoire américain. J'imagine que du coup, ça les rassure plutôt que d'avoir un consultant entier qui travaille pour le compte d'eux. C'est plus rassurant de représenter la société X avec les cartes de visite.
Non, tout à fait. Nous, on insiste vraiment sur ce point avec nos clients, de mettre en avant le fait d'avoir une présence aux US, de mettre une adresse aux US sur leur site internet, sur leurs documents commerciaux. C'est une barrière de développement aux US, donc il est facile de la faire tomber. Donc, c'est ce qu'on recommande à nos clients de faire très vite pour que justement, on se retrouve pas en face d'acheteurs ou de décisionnaires qui hésitent parce qu'ils se demandent si finalement, ils auront facilement accès à l'entreprise quand il y aura des questions. Donc voilà, ça, on le fait tomber très vite. Après, nous, dans notre équipe, elle est plutôt internationale. On cherche des profils, alors bien entendu avec de l'expérience sur le marché US, mais aussi des cultures internationales parce que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises du monde entier, des cultures qui sont très différentes. Donc, il faut qu'on soit sensible à ces cultures, à l'approche du business dans leur propre pays et comment adapter ça sur le marché US. Donc, on cherche vraiment des profils de gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont vécu dans d'autres pays ou qui viennent d'autres pays. On a bien entendu d'autres Français dans l'équipe, une personne qui est allemande. Donc, dans le passé, on a eu des profils de différents pays, sud-américains et autres. Donc, c'est vraiment ce profil international qu'on recherche plutôt qu'un cursus particulier, par exemple.
D'accord, mais c'est des gens qui vivent depuis longtemps aux États-Unis, qui se considèrent américains, comme toi, en fait.
Oui, c'est des gens qui ont une expérience aux États-Unis, qui ont déjà travaillé aux États-Unis. Donc là-dessus, oui, absolument. Ça, c'est d'ailleurs, c'est une des difficultés parce que c'est un petit peu des oiseaux rares qu'on essaie de trouver pour l'équipe. Mais bon, on est basé à Houston, donc qui est une grande ville. On a la chance d'avoir des profils intéressants ici.
D'accord. Alors, tu parlais d'un portefeuille de type d'entreprise assez large. Donc la question est peut-être difficile, mais ça fait en même temps 19 ans que vous faites ça, donc. J'imagine que tu as dû voir beaucoup de sociétés et beaucoup d'acheteurs potentiels. Mmh. Quelle est la vision d'un point de vue américain du savoir-faire français? Évidemment, la mode, l'alimentaire, ce sont des évidences, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une perception que les Français sont des bons ingénieurs, qu'ils sont bons dans le design? Je ne sais pas, mais justement, je suis curieux de savoir s'il y a une perception positive ou d'ailleurs négative des produits et services des Français et si oui, où?
Oui, il y a une perception qui est effectivement plutôt positive. En 19 ans, on a traversé des périodes où l'image de la France n'était pas forcément très très bonne aux États-Unis, mais même traversant ces périodes-là, l'impact vraiment sur le business de nos clients français n'était pas énorme. Donc, je dirais que ça va au-delà de peut-être des conflits temporaires qui peuvent exister entre les États-Unis et la France. Mais tu as raison de souligner, hein, de toute façon, la plupart des clients avec lesquels nous travaillons et que nous accompagnons sur le marché US sont sur ces secteurs des biens de consommation, de la mode, de l'agroalimentaire, les secteurs principaux français où on jouit d'une reconnaissance et d'un savoir-faire clairement ici. Donc, je suis d'accord avec toi sur ton analyse. Ces clichés-là persistent. On a des clients italiens, des clients allemands et les clichés qui peuvent exister sur les produits qui viennent d'autres pays d'Europe finalement sont vrais aussi. Donc là-dessus, de manière générale, on travaille avec des clients qui sont plutôt positionnés en haut de gamme, des clients industriels qui sont plutôt en avance sur ce qu'on peut retrouver sur le marché ici aux US. Donc voilà, après, c'est d'arriver à se faire une place et de rassurer les partenaires et les clients ici de faire confiance à des nouveaux clients qui arrivent juste sur le marché. Donc, c'est surtout cet aspect d'arriver à faire une première vente et à développer la marque et la reconnaissance de nos clients sur le marché US.
D'accord, mais au-delà de l'alimentaire ou de la mode, des produits de grande consommation, est-ce qu'il y a une reconnaissance, ou pas hein, d'ailleurs, je sais pas moi, d'un savoir-faire industriel français qui serait supérieur? Tu disais toi-même, on a parfois des produits qui sont un peu plus en avance que les produits locaux, mais est-ce que les clients arrivent à le reconnaître ça ou est-ce qu'ils ont peut-être une méfiance parce qu'ils ont des clichés en tête?
Non, ils le reconnaissent. Alors après, peut-être pas forcément une reconnaissance par rapport à des produits français, mais plutôt européens, je dirais. C'est vrai que c'est... Alors, le médical, c'est un secteur sur lequel on a pas mal d'expérience. On a travaillé avec plusieurs clients dans les process agroalimentaires où c'est vrai qu'on a les clients ou les prospects reconnaissaient tout de suite que les produits venaient d'Europe, en fait. Pas forcément de France, mais d'Europe, parce qu'effectivement, c'était des produits qui étaient avec des designs européens, en tout cas, tels que le percevaient. Et puis surtout dans le domaine du process agroalimentaire où on est, nous, bien en avance en Europe par rapport à de l'automatisation ou autre. Et là, pour avoir fait de nombreuses visites dans des sites US, en Europe, les machines qu'on utilise et les systèmes qu'on a sont bien plus en avance que ce qu'on peut retrouver ici aux États-Unis. Après, ça s'explique, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ce savoir-faire européen, clairement.
D'accord. Donc, tu as été exposé à des dizaines, des centaines de sociétés, j'imagine, et d'entrepreneurs, parfois avant qu'ils arrivent aux US, parfois après pour essuyer les pots cassés. J'imagine qu'il y a eu tout type de scénarios. Quels sont selon toi, je vais utiliser un mot un petit peu qui m'embête, mais bon, tant pis, les erreurs types que font les exportateurs ou les aspirants exportateurs vis-à-vis des États-Unis?
C'est une excellente question, Romain. C'est vrai qu'on peut en parler pendant des heures, mais pour essayer de mettre en avant, on va dire, les difficultés principales, la première, je dirais qu'elle est par rapport aux différences culturelles aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on fait souvent l'erreur de penser que les Américains, finalement, nous venant d'Europe, on n'est pas si différents qu'eux. On se ressemble physiquement, on pense connaître les États-Unis parce que finalement... On voit beaucoup de séries, de films ou d'infos sur les États-Unis et finalement, on se dit bah c'est pas si différent que chez nous, alors qu'en fait, c'est très différent de chez nous. Donc, la culture business, elle est quand même très différente. Donc ça, c'est une première mise en garde avec auprès de nos clients. C'est quand un client va en Asie, va vendre en Chine ou dans un autre pays, il sait que ça va être très, très différent. Et bah, les États-Unis, c'est la même chose. Il faut se préparer à ce que ça soit très, très différent. Et se préparer personnellement, mais préparer son entreprise, être prêt à s'adapter, à adapter ses produits, ses services, parfois la composition de ses produits, parce que c'est pas exactement au goût américain. Donc là, on a des exemples, on peut en citer plein. Dans le domaine du médical, bah, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est vrai qu'on a parfois un problème de taille. C'est-à-dire qu'on a des équipements médicaux qui sont à la taille des Européens et on sait que les Américains bah, sont plus grands, plus forts que les Européens. Donc, parfois, bah, ça passe pas. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Souvent, des détails, hein, mais d'envoyer des catalogues qui sont en centimètres ou en kilos ou en grammes, alors qu'aux États-Unis, on utilise des pouces et des pounds et des inches. Donc, c'est des petits points d'adaptation qui permettent de vraiment être prêt quand on s'attaque au marché US. Alors, moi, je dis toujours à nos clients de vendre local. Vendre local, ça veut dire plusieurs choses. On l'a évoqué déjà, d'avoir une présence locale, même si elle n'est que virtuelle. Ça veut souvent dire avoir un stock local pour rassurer par rapport à ça que les produits vont pas forcément venir tout le temps d'Europe. Et en plus, comme on l'a vu sur ces derniers mois, parfois, il y a énormément de retard et des prix qui flambent. Donc, de les rassurer par rapport à un stock local. Mais c'est aussi d'avoir, par exemple, un site internet qui est dédié au marché US. Alors, on n'est pas obligé d'avoir tout en place tout au début, hein, mais en tout cas, de commencer à réfléchir, à mettre tout ça en place sur les premiers mois ou la première année. Puis, un autre point que je mentionnerai aussi, c'est vraiment d'avoir une vision moyen-long terme sur le marché US. On réussit pas en claquant des doigts et à court terme aux États-Unis. Ça prend du temps. Il faut investir, il faut continuer à investir, il faut être persistant. Nous, effectivement, en 19 ans, on a accompagné énormément de clients. Et si aujourd'hui, je devrais faire le bilan de ceux qui ont réussi et ceux qui ont moins bien réussi ou pas réussi, au final, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui étaient persistants, qui savaient que c'était sur le long terme et qui ont tenu, quoi.
D'accord. Très, très clair. Et effectivement, je peux confirmer avec ma propre expérience, ayant vécu et travaillé et aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a presque plus de points communs entre un Français et un Japonais qu'entre un Français et un Américain, ou en tout cas, on est tellement plus préparé à la différence culturelle avec un Japonais que du coup, le choc est moindre.
Exactement.
Je suis totalement d'accord sur la partie localisation. J'avais une conversation avec un de tes pairs où on parlait justement d'une société française qui faisait des chaussures industrielles et qui n'arrivait pas à comprendre que pour vendre aux États-Unis, il fallait des demi-pointures. Ce qui se faisait pas dans son business parce qu'en Europe, il n'y avait pas de demi-pointures. Et voilà, bah, sans demi-pointures, bah, il n'y a pas de business aux US. Donc, effectivement, il faut s'adapter au marché local. Et donc, ce marché local, il demande des choses parfois différentes. Dans ton expérience, alors évidemment, c'est une grande généralité, mais tu as parlé d'un dernier thème qui est fondamental, qui semble être du bon sens, mais qu'il est important de marteler, et beaucoup de tes prédécesseurs dans ce podcast l'ont aussi mentionné, qui est que voilà, ça prend du temps et de l'argent d'investir aux US, c'est pas juste un coup qu'on fait comme ça, et donc ça demande de la patience. Pour les clients que tu as accompagnés pendant plusieurs années, est-ce que tu as une notion de la durée d'un point d'inflexion? C'est-à-dire que ça commence à vraiment prendre au bout de 12 mois, de 3 ans, de 18 mois. Est-ce que tu as une espèce de ressenti? Évidemment, il y a tout type de produits, tout type d'industrie, mais est-ce qu'il y a une espèce de règle?
C'est très difficile de donner une règle. Il y a tellement de différences entre les différentes industries, entre les moyens qu'un client a décidé de mettre sur le marché qui fait que ça ira plus vite qu'un autre, où les moyens ont été moins importants. Donc, difficile de donner une durée, on va dire, qui soit valide de manière générale, mais une fourchette, je dirais, oui, entre 12 et 24 mois où on doit commencer à avoir les premiers fruits de son travail. Après, c'est vraiment au cas par cas, hein, si je peux me permettre de te donner un exemple.
Bien sûr.
Alors, c'est pas un client français, en l'occurrence, mais c'est un client italien dans le domaine de l'équipement agricole qu'on a commencé à accompagner en faisant une étude sur le marché US. Ils étaient persuadés qu'il y avait un potentiel sur le marché US et leur objectif, c'était de vendre à John Deere. Donc, c'était voilà l'objectif très ambitieux.
Donc, John Deere, c'est un grand équipementier agricole. Ils font des tracteurs, des moteurs, des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est le premier fabricant de tracteurs et machines agricoles au monde.
C'est le leader mondial d'ailleurs de ça, peut-être avec Caterpillar de mémoire.
Voilà, basé aux États-Unis avec des usines un petit peu partout dans le monde. Et donc, on a commencé à faire une prospection qui était difficile parce que bah, c'était un client dont le nom n'était pas du tout reconnu ici. Et en fait, il s'est vite avéré que la stratégie à mener était de travailler d'abord avec des plus petits faiseurs, d'obtenir quelques premières références. On a vraiment insisté pour le fait d'avoir un bureau aux US, donc on a domicilié chez nous, un stock aux US pour rassurer ses premiers clients. Et c'est une fois qu'on avait mis tout ça en place, qu'on est retourné aller voir John Deere et qu'on a insisté sur le fait qu'on avait déjà des références aux États-Unis, qu'on avait un stock aux États-Unis. Et en fait, ça a été un processus de 2 ans et demi et qui a abouti au final à gagner le business de John Deere aux US et au Mexique. Donc, en contrat annuel, on est au-delà $1,5 million pour eux. Ça leur a ouvert les portes aux autres usines de John Deere à travers le monde. Mais voilà, si on avait fait cette démarche auprès de John Deere en arrivant aux US, on n'y serait pas arrivé.
D'accord.
Donc, c'est souvent aussi le message que nous, on donne à nos clients. C'est oui, vous avez certainement des clients idéaux qui seraient les gros faiseurs, les grands comptes. Mais ce n'est pas forcément la bonne approche d'aller les voir tout de suite. Il y a une expérience à acquérir aux US, il y a des références à obtenir. Et c'est après, une fois qu'on a un petit peu fait son chemin sur le marché US, où on peut aller voir alors les gros faiseurs qui sont des clients directs ou peut-être des acteurs de la grande distribution nationaux. Mais voilà, une fois qu'on a fait cette expérience du marché, peut-être plus sur un ou deux états, c'est après qu'on peut se dire on a l'expérience et la capacité à aller au-delà. Donc ça, c'est pas simple hein, d'expliquer ça aux clients et de leur dire finalement ben, de pas faire trop vite. Les Américains vont être réceptifs à des approches, mais on n'aura pas 2 occasions. Donc, il faut vraiment saisir sa chance quand on l'a, quitte à attendre et à être patient et à bien préparer le moment venu, plutôt que d'essayer d'aller trop vite. Voilà, nous, ça fait partie des échanges qu'on a avec nos clients, de les préparer à ça et de mettre en place une stratégie qui a du sens, qui est réaliste par rapport aux moyens qu'on met en face. Mais bon, c'est pas simple parce qu'on a parfois des clients qui veulent que ça aille plus vite, mais on est face à la réalité du marché et il faut s'adapter.
Très clair. Prenons un contre-exemple. Est-ce que tu as déjà eu des situations où à un moment, la recommandation, c'est d'abandonner le marché américain?
Oui.
Et qu'est-ce qui fait que, même si on fait tout bien, on a fait une étude de marché, on a adapté son produit, qu'est-ce qui peut faire que dans certains cas, ça marche pas et à quel moment, justement, faut jeter l'éponge? Parce que j'imagine que ça arrive.
Oui, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Donc ça, c'est notre rôle aussi à nous. Hein. Alors, soit on l'identifie rapidement en phase d'étude parce qu'on se rend compte que bah, y a effectivement énormément d'acteurs déjà présents sur le marché et qu'on est avec un client qui apporte pas forcément quelque chose qui va les rendre très compétitifs sur le marché, que ce soit une nouvelle techno ou un prix. Donc là, on est face à un marché saturé où il est très difficile de se faire sa place. Donc là-dessus, il n'y a pas 50 façons d'avancer. Hein. C'est soit... on est obligé d'investir beaucoup d'argent pour développer le marché. Et là, parfois, le client ne peut pas suivre hein, quand on est face à une PME ou une société qui ne veut pas forcément mettre les moyens. Après, il y a des choix. On a des clients qui évaluent les États-Unis, mais qui évaluent d'autres marchés de grand export. Et à un moment, il y a des arbitrages à faire. Souvent, dans certains secteurs, il faut arriver à mettre rapidement un stock en place. J'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est une étape très importante. Donc, c'est d'investir dans un stock qui est aux États-Unis sans qu'on sache s'il va être vendu ou pas. Donc il y a forcément un élément de risque à ça et tout le monde n'est pas prêt à le prendre au début. Puis sinon, après, il y a des barrières qui peuvent être réglementaires quand on est dans le médical, par exemple, ou dans l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs où il faut obtenir différents enregistrements ou réglementations. C'est parfois très long, très coûteux. Donc après, c'est un choix. Et puis, on peut aussi se retrouver face à des clients qui ont des propositions commerciales, mais qui ne correspondent pas vraiment au positionnement qu'ils souhaitent avoir. Par exemple, on a eu plusieurs de nos clients intéressés par Walmart et Sam's Club. Donc, Sam's Club qui appartient à Walmart, mais qui est le, comment on pourrait décrire ça en français, un club. Donc, il faut être membre. Il y a payé à l'année et puis ensuite on peut acheter dans ce club. En général, ce sont des produits de grande quantité.
Une espèce de supermarché avec un coût mensuel ou annuel d'appartenance. Pour pouvoir passer la porte et acheter chez eux, il faut être membre.
Voilà, exactement. Le concurrent direct de Costco, qui est peut-être un nom plus reconnu en France. Donc en fait, c'est un positionnement, on va dire, plutôt bas de gamme. Alors c'est énorme, hein, c'est à la fois accès à tous leurs magasins à travers les États-Unis, aussi à des plateformes sur leur site internet, donc une entrée qui peut être très rapide et très vaste sur le marché US, mais par contre un niveau de prix qui fait que certains de nos clients ont refusé de travailler avec Sam's Club à cause du prix proposé, c'est-à-dire que eux qui envisageaient plutôt un positionnement en moyen haut de gamme se retrouvaient avec un positionnement en bas de gamme et ils ne le voulaient pas. Donc même s'il y avait un potentiel à court terme de business intéressant avec Sam's Club, au final, ils ont décidé de refuser de travailler avec Sam's Club pour justement ne pas se retrouver avec cette étiquette
bas de gamme
aux États-Unis et avoir énormément de difficultés demain de se retrouver leurs produits dans la grande distribution un peu plus haut de gamme. Donc c'est parfois des décisions purement business sur un positionnement souhaité ou non souhaité. Donc, après, il y a plein de cas de figure qui fait que il faut renoncer au marché US. Pour plein de raisons, hein. Mais souvent, c'est pas un renoncement total, mais c'est plutôt de re-réfléchir à la manière dont on pourrait développer le marché US. C'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qui essaient, par leurs propres moyens de faire ça, qui viennent nous voir après avoir essayé de travailler avec des agents ou des distributeurs, et finalement, ils se rendent compte que le distributeur, il distribue, mais il vend pas forcément. Donc, les ventes décollent pas. Et puis, le sujet est très important, c'est au niveau des contrats. C'est-à-dire demain, commencer à travailler avec un partenaire aux US sans contrat et de se retrouver finalement quand on décide d'aller essayer de travailler avec d'autres, finalement d'être bloqué parce que même sans avoir de contrat, ce premier partenaire considère qu'il a l'exclusivité sur le marché US et là, on peut vraiment se retrouver avec un procès.
Quand tu parles de partenaire, tu veux dire des agents commerciaux ou des distributeurs?
Alors, ça peut être des agents, ça peut être des distributeurs.
D'accord.
Mais nous, on a eu plusieurs clients qui sont venus nous voir après s'être retrouvés en conflit avec leurs partenaires, conflit qui a parfois est allé jusqu'au procès hein, aux États-Unis, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de contrat signé avec ce partenaire, quel que soit le profil de ce partenaire, et que donc, une fois que finalement les ventes ne sont pas satisfaisantes ou alors que le partenaire, on se rend compte que finalement il est très bon sur la côte Est parce qu'il a un réseau sur la côte Est, mais finalement la côte Ouest, il a personne et même si au début, il nous a dit qu'il couvrait tous les États-Unis, finalement, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et quand on veut chercher un partenaire sur la côte ouest, le premier partenaire dit « Ah, mais non, ce n'est pas possible. Nous, on a l'exclusivité sur les États-Unis, donc c'est nous. » Et là, il y a conflit. Donc, s'il n'y a pas un contrat qui permet de sortir du conflit, ça peut tout de suite aller au procès et énormément de difficultés pour pérenniser le business après aux US. Donc, ça, c'est un sujet très important aussi.
D'accord. Oui, donc effectivement, prendre un avocat aussi pour bien valider le contrat avant de signer avec un agent ou distributeur.
Absolument. Comme tu le sais, les avocats sont très importants aux États-Unis. Il faut s'entourer d'avocats quand on fait du business aux États-Unis. Donc ça fait aussi partie des recommandations et des différences avec la manière de faire des affaires en Europe.
Et on va faire de la mise en abîme, mais donc je recommande de ce point de vue-là pour les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté, les épisodes 6 et 7 de ce podcast avec Luc Atlan, qui est donc un expert de ces sujets et qui devrait vous convaincre après cette écoute de prendre un avocat pour quoi que vous fassiez d'un point de vue business aux US, c'est fondamental.
Voilà, je confirme.
Très clair. Alors, donc ça fait 19 ans que tu fais ça, donc j'imagine que tu as pu effectivement développer une marque et un réseau, mais au final, ce que tu me décris, c'est que tu as donc des clients qui sont en France, en Europe, parfois au Japon ou en Asie du Sud-Est. Et donc, le travail, par contre, il est fait. Donc, tu as des prospects ou des clients. Donc, le business development, le travail de vente, il doit se faire en dehors des États-Unis. Et par contre, le travail, il est forcément à Houston et dans le reste des États-Unis. Donc,
tout à fait.
Comment fais-tu ou comment faites-vous dans votre équipe pour gérer cette difficulté qu'on est beaucoup à connaître, à savoir, je dois vendre sur un continent et donc faire mon développement commercial sur un continent et faire le travail sur un autre? Quand on n'a pas le don d'ubiquité, on fait comment?
Alors effectivement, on se répartit bien les rôles. Donc ce travail de business development pour Wino et donc depuis 19 ans d'avoir créé et mis en place un réseau de partenaires, un réseau d'apporteurs d'affaires, d'abord en France, en Europe et puis aujourd'hui même au-delà, donc en Asie, mais même en Afrique, en Amérique du Sud. Donc ça, c'est effectivement mon rôle. Et on reviendra peut-être sur le réseau Globalliance dont nous faisons partie. Mais sinon, effectivement, l'équipe de consultants et de consultantes, elle est dédiée aux missions pour nos clients. Donc là-dessus, c'est des missions qui peuvent être menées par un consultant ou parfois un binôme, voire une équipe de trois, selon la charge de travail et les objectifs de nos clients. Donc ça, effectivement, on rayonne sur les États-Unis à partir de nos bureaux de Houston. On couvre tous les États-Unis. Alors, les démarches de prospection, elles se font, bien entendu, par téléphone, elles se font par mail. On accompagne nos clients lors des tournées commerciales qu'on organise en physique. Alors, on l'a pas fait ces derniers 14-15 mois, mais on sait que quand la situation redeviendra normale, on pourra le refaire. On accompagne nos clients sur les salons là où ils se trouvent, à travers les États-Unis. Et puis, parfois, on a des clients qui nous mandatent d'aller sur des villes où précisément pour faire un travail terrain. Je peux te donner un exemple. On a travaillé pour un client français dans le domaine de l'accessoire de vélo qui souhaitait principalement cibler des villes comme New York et San Francisco. Et donc là, on a fait, en l'occurrence, la consultante en charge du dossier a fait le déplacement d'une semaine sur New York et d'aller visiter les points de vente de vélo dans New York. Et faire un petit peu ce travail de prospection porte à porte, je dirais. Ça, on le fait. Mais ça, voilà, ça, c'est plutôt des exceptions plutôt que la règle. Mais il nous arrive de le faire.
D'accord. Mais toi, pour faire le développement de ton business, puisque beaucoup de nos auditeurs, en fait, peuvent se retrouver à cheval sur deux continents.
Oui.
Donc, comment tu fais? Tu es dans l'avion tout le temps ou tu l'as été à un moment et puis maintenant, tu récoltes les fruits de 19 ans d'expérience. Mais comment ça marche? C'est difficile, non?
Non, c'est une bonne question. Alors, ce sont effectivement des relations qu'on tisse et qu'on chérit, parce que c'est parfois des longues relations. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est devenu plus que des relations professionnelles. Il y a forcément une part de déplacement. On peut pas non plus faire que ça à distance. Donc, on va dire situation hors Covid, c'est plusieurs déplacements dans l'année en Europe. C'est au moins un déplacement en Asie dans l'année. Et puis après, c'est de rester en contact avec ses partenaires via des visios ou des appels téléphoniques ou des échanges par mail. Donc, c'est vraiment un travail de faire vivre ce réseau. Alors, ça va pas que dans un sens, c'est-à-dire que c'est pas forcément tout vers nous, mais nous, on renvoie la balle aussi. Et c'est ça aussi qui fait vivre un réseau, c'est que on s'entraide.
D'accord. Tu parlais du Covid.
Oui.
Et effectivement, donc, dans les 12-15 derniers mois, les démarches commerciales, elles ont été pour la majorité dans tous les business en virtuel.
Oui, tout à fait. Ouais.
Est-ce que tu crois que même si en touchant du bois, on risque d'en sortir et en espérant que les vaccins fonctionnent, etc., etc., est-ce que tu penses qu'il y a une tendance de fond qui pourrait changer la façon dont on fait du business et dont on vend aux US, en l'occurrence? Ce que tu disais tout à l'heure, il faut être sur place,
ouais.
Faut rencontrer la personne physiquement, faut faire des salons. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que ça va revenir ou est-ce que c'est parti et que maintenant tout va être virtuel?
Non, je crois que ça va revenir. Je crois que ça va revenir. Il y a une vraie demande des deux côtés pour que ça revienne. Nous, on a des clients qui veulent revenir aux US, qui savent qu'ils ont besoin de revenir aux US.
Physiquement, tu veux dire?
Oui, physiquement. Et aujourd'hui, ils peuvent pas. Donc, je dirais, nous remplit bien notre rôle. Justement, c'est là où on a réussi à démontrer la pertinence de ce qu'on fait pour ces clients qu'on avait avant le Covid et ceux qu'on a gagnés une fois en période Covid. C'est effectivement cette proximité. De toute façon, on a des clients qui sont très occupés, qui peuvent pas venir tout le temps aux États-Unis. Donc là-dessus, c'est souvent de toute façon des tournées qui sont planifiées longtemps à l'avance. Mais non, je pense que ça va revenir. Les salons, petit à petit, en physique, reviennent. On a un client dans le médical dont le premier salon en physique reprend au mois de juin. Alors, on ne sait pas trop quand est-ce que nos clients européens ou asiatiques pourront revenir aux États-Unis. Mais en l'occurrence, à l'intérieur des États-Unis, le business reprend son cours normal, je dirais. Alors, on a tous appris à utiliser des outils aujourd'hui qui vont continuer d'être utilisés, hein, ça c'est certain. C'est un point positif. Mais non, quand on pourra se déplacer et se revoir et discuter et avoir ces liens en physique, il y aura une période un peu de transition où on hésitera, mais ça va revenir. Je suis persuadé que ça reviendra. On fait de notre mieux en cette période, mais on a quand même besoin d'humains et je pense que ça reviendra.
D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure du réseau Globalliance dont Wino fait partie. Globalliance, qu'est-ce que c'est?
Alors, Globalliance, c'est un réseau de sociétés d'accompagnement à l'international à travers le monde. Donc, c'est un réseau qui a été créé il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes une douzaine de membres. Nous avons des membres affiliés, des partenaires, avec une couverture très large sur à travers le monde et avec une identité qui est unique, c'est-à-dire qu'on est tous des Français expatriés dans nos pays respectifs, ayant créé nos entités, donc étant nous-mêmes entrepreneurs dans nos pays respectifs et qui aujourd'hui sommes à la disposition donc de nos clients français, mais nos clients internationaux, pour les aider à comprendre nos marchés et à s'y développer. Donc, il y a une vraie identité commune, un savoir-faire. On est plusieurs centaines d'employés quand on regarde les équipes des uns et des autres. Donc, ça, c'est un réseau qui, aujourd'hui, fonctionne très bien. Alors, en individuel, bien entendu, mais aussi aujourd'hui, on commence à travailler sur des missions qui regroupent plusieurs zones géographiques. Je peux te citer un exemple tout récent, puisqu'on a gagné un appel d'offres de Cosmetic Valley, qui est le pôle de compétitivité en France pour tout ce qui est la cosmétique, mais qui s'est regroupé au sein d'un projet européen avec d'autres pôles de compétitivité dans plusieurs pays européens. Et donc, on a gagné un appel d'offres sur 5 pays qui regroupent du coaching, du training, des études. Donc ça, c'est le modèle qui se développe aussi, c'est de pouvoir travailler avec les partenaires de Globalliance à accompagner nos clients sur plusieurs zones géographiques.
D'accord. Si je simplifie, donc il y a un Wino Consulting en Espagne, en Allemagne, ils ont chacun leur nom, c'est pas Wino.
Non, exactement, oui.
Mais tu as des équivalents, en fait, et donc vous avez décidé de vous travailler ensemble, sous une ombrelle commune.
C'est ça.
Avec l'idée, en plus, que donc vous pouvez vous apporter des leads les uns les autres. Donc,
c'est exactement ça.
Dans mon exemple du Japon, maintenant, tu as peut-être moins besoin d'aller physiquement prendre l'avion au Japon, mais tu as peut-être un de tes pairs au Japon, s'il y a un bureau là-bas, qui t'envoie des leads japonais qui veulent aller aux US et vice-versa.
Alors oui, ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'on a... Alors le Japon est un bon exemple, parce qu'en l'occurrence, le Japon nous a envoyé un client espagnol, tu vois. Donc ils ont accompagné une société espagnole sur le Japon, et dans le cadre des discussions, cette société disait « on a un peu de mal aux États-Unis, on aimerait bien savoir si tu connaissais quelqu'un aux États-Unis », voilà. Et donc lien fait avec Wino, et c'est aujourd'hui une société qu'on accompagne. Donc oui, il y a énormément d'échanges entre les membres, d'apport de lead et il y a une équipe centrale qui est basée en France, en back-office, on va dire. Et puis, les équipes locales, bien entendu, on est basé sur nos pays respectifs et l'accompagnement tel que je le décris pour Wino aux États-Unis, il est le même, voire même d'autres services, par exemple de sourcing sur certains pays que nous, on ne fait pas aux États-Unis. Donc voilà, là après, il y a effectivement une même approche et un même degré d'accompagnement, bien sûr.
D'accord, très clair. Alors Bruno, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un dernier message pour nos auditeurs concernant leur expansion aux États-Unis?
Oui Romain, si je reprends un petit peu les différents points qu'on a évoqués à travers ce podcast, je dirais rapidement que les États-Unis sont un marché qui est accessible. Par contre, bien entendu, il faut s'y préparer, il faut s'adapter, il faut être local et s'attendre à un retour sur investissement qui est forcément à moyen long terme. Mais le message positif, il est que même pour une petite PME, et j'ai plein d'exemples que je peux donner, le marché américain est un marché qui est possible. C'est un marché sur lequel on peut vendre et vendre bien. Donc, j'encourage vraiment les entreprises à regarder vers le marché US et à prendre le temps de bien se préparer.
Super. Bruno, donc, merci pour tout ça. Si je suis donc un auditeur entrepreneur français qui cherche à aller aux USA et donc suite à ce podcast, je souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de te joindre?
Alors, la meilleure façon, ce sera par email. Donc, c'est bruno@wino.consulting. Donc, Wino, c'est O-U-I-N-O, wino.consulting. Donc, bruno@wino.consulting.
D'accord. Et l'autre point, c'est si toujours un auditeur se dit, peut-être que les USA, c'est pas pour tout de suite, mais par contre, l'Espagne, le Japon, c'est top of mind pour moi. Et donc, ce Globe Alliance, ça m'intéresse. Il te contacte toi ou il y a un autre contact pour les autres pays Globe Alliance?
Alors, effectivement, ça peut être via moi ou directement sur le site Globe Alliance. Donc, Globe Alliance, c'est tout simplement globalliance.com, globalliance.com, globalliance.com. Et là, il y a tous les profils des partenaires, des membres sont listés avec les coordonnées pour pouvoir les contacter en direct.
Parfait. Merci beaucoup, Bruno.
Merci beaucoup à toi, Romain. Au plaisir.
Merci d'avoir suivi Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elle soit organique ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ichbia.co. Ça s'écrit ichbiah.co.